Ma mère, si elle y passait moins de temps, s'y livrait cependant à des exercices d'échauffement, guettant pour y remédier aussitôt le moindre relâchement. Tous deux tenaient un commerce de gros, rue du Bourg-l'Abbé, dans ce carré de l'un des plus anciens quartiers de Paris réservé à la bonneterie. La plupart des magasins de sport se fournissaient chez eux en maillot, juste au corps et sous vêtements. Je m'installais à la caisse à côté de ma mère pour accueillir les clients. Parfois j'aidais mon père, trottinant à sa suite, dans l'une ou l'autre des réserves, pour le regarder soulever sans effort des piles de cartons ornées de photos de sportifs, gymnastes aux anneaux, nageuses, lanceurs de javelots, que je regardais s'empiler sur les rayonnages. Les hommes portaient la coupe courte et légèrement ondulée de mon père. Les femmes arboraient la sombre cascade de cheveux de ma mère, retenue par un ruban. Quelque temps après ma découverte dans la chambre de service, j'avais insisté pour y retourner. Et cette fois, ma mère n'avait pu m'empêcher de redescendre avec le petit chien. Le soir même, je l'installai sur mon lit. Quand il m'arrivait de me brouiller avec mon frère, je me réfugiais auprès de mon nouveau compagnon, Sim. Où étais-je allé lui chercher ce nom? Dans l'odeur poussiéreuse de sa peluche? Au détour des silences de ma mère? Dans la tristesse de mon père? Sim. Sim. Je promenais mon chien dans l'appartement, et je ne voulais rien savoir du trouble de mes parents lorsqu'ils m'entendaient l'appeler. Plus j'avançais en âge, plus mes relations avec mon frère devenaient tendues. Je nous inventais des querelles, je me rebellais contre son autorité, je tentais de le faire fléchir, mais je sortais rarement vainqueur de nos empoignades. Les années passant, il s'était transformé. De protecteur, il était devenu tyrannique, moqueur, parfois méprisant. M'endormant au rythme de sa respiration, je continuais cependant de lui confier mes peurs, mes défaites. Il les accueillait sans un mot, mais son regard me réduisait à néant. Il détaillait mes imperfections, soulevait les draps et étouffait un rire. Alors la colère m'envahissait, je le saisissais à la gorge. Frère ennemi, faux frère, frère d'ombre, retourne à ta nuit. Mes doigts dans ses yeux, j'appuyais de toutes mes forces sur son visage pour l'enfoncer dans les sables mouvants de l'oreiller. Il riait, et tous deux nous roulions sous les couvertures, réinventant les jeux du cirque dans l'ombre de notre chambre. Troublé par son contact, j'imaginais la douceur de sa peau. Mes os se sont étirés, ma maigreur s'est accentuée. Alerté, le médecin de l'école a convoqué mes parents, afin de s'assurer que je mangeais à ma faim. Ils en sont revenus blessés. Je m'en suis voulu de leur faire vivre cette honte, mais à mes yeux, leur prestige s'en est trouvé renforcé. Je haïssais mon corps, et mon admiration pour le leur ne connaissait plus de limites. Je découvrais une nouvelle façon de jouir de mon statut de vaincu. Le manque de sommeil creusait chaque jour un peu plus mes joues. L'éclatante santé de mes parents contrastait encore davantage avec mon aspect souffreteux. Mon visage présentait les cernes bleutées, le teint livide d'un enfant épuisé par les pratiques solitaires. Quand je m'enfermais dans ma chambre, toujours j'emportais avec moi l'image d'un corps, la tiédeur d'une chair. Quand je n'accrochais pas mes membres à ceux de mon frère, je célébrais l'éclair qui venait m'éblouir à l'heure de la récréation. Dans la cour de l'école, je me réfugiais au bord du carré réservé aux filles. Elles y jouaient à la marelle ou sautaient à la corde, loin des jeux de ballon et des exclamations qui résonnaient sur le territoire des garçons. Assis à proximité de leur voix claire, sur le sol de ciment, je me laissais bercer par leurs rires et leurs comptines, et au moment de leur envol, je surprenais sous leur jupe la blancheur d'une petite culotte. J'avais pour les corps une curiosité sans limite. Très vite, le rempart des vêtements ne m'avait plus rien caché. Mes yeux fonctionnaient à l'image de ces lunettes magiques dont j'avais vu la publicité dans un magazine et qui vantaient leur pouvoir, le comparant à celui des rayons X. Débarrassés de leurs uniformes de citadins, les passants révélaient leurs trésors, comme leurs imperfections. Au premier coup d'œil, je repérais une jambe torse, une poitrine haut perchée, un ventre proéminent. Mon regard exercé procédait à une véritable moisson d'images, collection d'anatomie que je feuilletais la nuit venue. Rue du Bourg-l'Abbé, je profitais de l'agitation des jours de presse pour explorer les réserves. Le magasin était installé au rez-de-chaussée d'un immeuble vétuste. Un escalier permettait d'accéder aux chambres d'un ancien appartement, pièces sombres tapissées de rayonnages, imprégnées d'une odeur de carton et d'apprêt. Comme j'aurais parcouru les étagères d'une bibliothèque à la recherche d'un titre, Je laissais courir mes yeux sur les étiquettes. Maillot, culotte de sport, collant gymnastique. Page, demi-patron, patron, fillette, femme. Je comparais les tailles, m'intéressais aux pointures. Chacun de ces chiffres convoquait une silhouette nouvelle, aussitôt revêtue de ses accessoires. Lorsque j'étais certain de ne pas être dérangé, je soulevais le couvercle des boîtes, le cœur battant, et me saisissais de leur contenu. J'y plongeais mon visage, puis j'étalais ces pièces sur le comptoir en pressant mon ventre sur le rebord de chaîne pour recomposer à ma guise la silhouette d'une gymnaste, d'une basketteuse ou d'un coureur de fond. Le magasin partageait le rez-de-chaussée de l'immeuble avec le cabinet de Mademoiselle Louise. Son officine occupait deux pièces laquées de blanc, un bureau et une salle de soins, au sol recouvert d'un linoléum. Quelques plantes vertes chlorotiques habillaient une vitrine sur laquelle s'étalaient en lettres d'émail les services offerts. Soins à domicile, piqûres, massages. Louise faisait partie de notre famille. Je l'avais toujours connue. Les jours calmes, elle venait s'accoudre à la caisse pour faire la conversation. Régulièrement, sur sa table, recouverte d'un drap blanc, elle massait mes parents. Une fois par semaine, elle m'injectait des vitamines ou m'asseyait face à l'aérosol. Deux embouts crachotant dans les narines, je restais immobile, plongé dans mes pensées, engourdi par le ronronnement de la machine. Louise avait dépassé la soixantaine. Elle portait sur son visage les stigmates de l'alcool et du tabac. Les excès avaient marqué ses yeux soulignés de poches. Sa peau blême flottait sur un visage détruit. Seules ses mains, énergiques, émergeant des manches de sa blouse, semblaient posséder une ossature. Deux mains autoritaires, aux ongles courts, aux longs doigts qui se déployaient et s'imposaient lorsqu'elle parlait. Je recherchais sa compagnie, traversant le plus souvent possible les trois couloirs encombrés de cartons pour lui rendre visite. Je passais moins de temps dans le magasin que chez elle, où je pouvais parler sans contrainte. Je la sentais proche de moi, sans doute en raison de sa difformité. Elle devait sa démarche cahotante à un pied bot, dissimulé dans une chaussure orthopédique. Un boulet de cuir noir qu'elle traînait partout avec elle. Sa silhouette vacillante, bousculée par les murs du couloir, était à l'image de son visage, un sac de peau que ne soutenait aucune armature. Prédisposée à des crises de rhumatisme qui enflammaient ses articulations, Louise balayait cette douleur sourde d'un mouvement exaspéré de la main. Je comprenais les raisons de son geste. Elle détestait son apparence. J'étais fasciné par ce corps sans squelette, qui entretenait une telle intimité avec les nôtres. Celui de mes parents, lorsqu'ils venaient déposer leur fatigue sur sa table de massage, et le mien, lorsque je lui présentais mes fesses pour qu'elle m'y injecte l'un de ces liquides revitalisants. Louise disait connaître mes parents depuis leur installation rue du Bourg-l'Abbé. Elle me vantait la beauté de ma mère, l'élégance de mon père, traversée par un frémissement quand elle prononçait leur nom. Nous avions nos rituels. À chacune de mes visites, elle me préparait un chocolat sur le réchaud où elle faisait bouillir ses aiguilles. Je le dégustais à petites gorgées et elle me tenait compagnie avec un verre de la liqueur ambrée qu'elle cachait dans son armoire à pharmacie. Curieux de sa vie, je lui posais les questions que je ne m'étais jamais permises avec mes parents. Elle se prétendait sans secret. Sa vie était là, dans ce cabinet sombre. Elle dispensait ses bons soins aux habitués et les écoutait jour après jour. Le reste avait si peu d'intérêt. Elle vivait dans le pavillon de son enfance, elle y était née, y avait grandi. Son horizon se limitait aux deux pièces de son cabinet et à la bâtisse de meulière entourée de son jardinet de banlieue. Depuis la mort de son père, elle y soignait sa mère, répétant le soir pour la vieille femme impotente les gestes qu'elle accomplissait dans la journée. Certains jours plus propices à la confidence, Louise racontait l'enfance d'une petite fille boiteuse, moquée, vivant dans l'ombre de ses camarades plus agiles. Je m'y reconnaissais. Je voulais en savoir davantage, mais très vite, comme à chaque fois qu'elle abordait un sujet pénible, lui venait ce même geste pour écarter la douleur. Elle balayait l'air de ses mains et plantait son regard interrogateur dans le mien, attendant mes confidences. Alors je pouvais me laisser aller, à lui raconter mes rêves. Ses soupirs ponctuaient mon récit, matérialisé par la fumée de sa cigarette. Depuis des années, elle écoutait mes parents avec la même attention, laissant courir sur eux ses mains énergiques qui les délestaient de leurs soucis. Avec leur fatigue, ils abandonnaient chez elle leurs secrets.
Partie 2.